VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 7 février 2019, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Signature hier à Bangui du 8e accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés centrafricains.
Au Cameroun, nombreuses arrestations hier à Boya, dans le sud-ouest anglophone.
Félix Tshisekedi, le nouveau président de la RDC, aujourd'hui à Brazzaville, après des visites en Angola et au Kenya.
Réunion internationale ce jeudi à Montevideo, capitale de l'Uruguay, sur une solution négociée à la crise au Venezuela.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En Centrafrique, un accord de paix entre le pouvoir et les groupes armés qui contrôlent une bonne partie du territoire a été signé hier à Bangui. Il s'agit là du 8e accord de paix visant à mettre fin aux violences qui ravagent ce pays depuis 2013. Bagassi Koura.
La cérémonie de signature s'est déroulée dans une salle de la présidence. Le président Faustin Archange Touadéra a affirmé que le premier effet est la cessation de toute violence contre les civils. Il n'a pas dévoilé le contenu de l'accord, mais a juste indiqué que la commission Vérité et Justice sera opérationnelle à la fin de l'année. Les chefs rebelles musulmans Ali Daras et Noureddine Adan n'ont pas assisté à la cérémonie, mais avaient paraphé le texte mardi à Khartoum. Les 7 précédents accords de paix n'ont jamais été respectés. Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'Union africaine, estime cette fois-ci qu'il ne faut pas que ce soit un énième accord sans suite. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, encourage toutes les parties à honorer leurs engagements. C'est dans ce contexte que Mankeur Ndiaye, ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, vient remplacer Parfait Onanga Onyanga à la tête de la MINUSCA. La mission onusienne, forte de quelques 12 000 soldats et policiers, a jusque-là beaucoup de mal à faire cesser les violences.
Au Cameroun, de nombreuses personnes ont été arrêtées hier à Boya, dans le sud-ouest anglophone, en proie à un conflit entre séparatistes et forces de sécurité. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Beaucoup de personnes ont été arrêtées par la police à Moliko, un quartier de Boya, selon un habitant. Les personnes interpellées ont été conduites au commissariat du quartier où les forces de sécurité ont été déployées. Les autorités ont laissé entendre qu'il n'était pas possible dans l'immédiat de connaître le nombre de personnes arrêtées. Cette vague d'arrestations a ciblé les lieux dits Ndongo et Checkpoint, deux zones de Moliko où des séparatistes présumés multiplient les actions. Ces arrestations interviennent après des échanges de tirs entre des séparatistes présumés et des membres des forces de sécurité. D'après un témoin, une cinquantaine d'Amba Boys, les séparatistes armés, étaient hier dans son quartier. Ils ont tiré en l'air pendant plus de 2 heures et brûlé 3 voitures. Les militaires sont ensuite arrivés et les ont fait fuir. Mardi, des séparatistes présumés ont attaqué un lycée à Babadjou, brûlé des salles de classe, la bibliothèque et 2 véhicules et emporté 4 motos, selon un responsable de la ville. Dans le nord-ouest, un pasteur a été tué près de la frontière nigériane, selon sa congrégation qui n'a pas donné de détails sur l'identité des assaillants.
Le président kényan Uhuru Kenyatta a proposé son aide hier pour ramener la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une visite à Nairobi du nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi. Irénée Herman Ungbo nous en dit plus.
Nous allons continuer à vous aider à atteindre la paix et la stabilité parce que nous avons une expérience similaire à la vôtre que nous pouvons vous faire partager, a déclaré Uhuru Kenyatta. Il a assuré son homologue congolais avoir tiré les leçons de la crise politique née de la contestation de sa réélection en 2017 par l'opposant Raila Odinga qui avait fait plus de 90 morts. Les deux hommes ont depuis promis d'œuvrer ensemble pour la réconciliation dans le pays. Le Kenya se dit prêt à aider à former les fonctionnaires congolais ainsi qu'à mettre en place des partenariats en matière de construction d'infrastructures et dans l'industrie minière. Félix Tshisekedi a entamé sa première tournée à l'étranger en tant que chef d'État par l'Angola. Après le Kenya, deuxième étape de sa visite, il doit se rendre au Congo-Brazzaville.
Brazzaville, où M. Tshisekedi termine aujourd'hui cette tournée. Au Sénégal, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 24 février selon le calendrier prévu, a assuré hier le ministre sénégalais de l'Intérieur. La veille, l'ex-chef d'État Abdoulaye Wade avait lancé un appel à s'opposer pacifiquement à la tenue de ce scrutin. Le point avec Raissa Girondin.
Je pense que c'est des propositions d'hommes politiques et que le scrutin aura lieu, d'après le ministre Aline Nguyen-Diaye. Il a aussi indiqué que l'acheminement du matériel électoral dans les 14 régions a débuté et que tout ce matériel sera à destination d'ici le 9 février. Mardi, dans une vidéo enregistrée à Versailles en France, l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade avait appelé la population à s'opposer à la tenue d'une élection qui, selon lui, est entièrement fabriquée dans le seul but de faire réélire le président sortant Macky Sall. Maître Wade, 92 ans, a dénoncé l'élimination de la course à la présidence de son propre fils, Karim Wade, et du maire déchu de Dakar, Khalifa Sall, tous deux frappés par des condamnations judiciaires. En revanche, il n'a pas donné de consigne de vote en faveur d'un des quatre candidats de l'opposition qui feront face à l'actuel chef de l'État. Évoquant le retour de M. Wade annoncé pour ce jeudi, le ministre de l'Intérieur a assuré qu'il serait accueilli à bras ouverts. C'est un ancien président et il mérite tous les égards. Fin de citation.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa prononce ce jeudi devant le Parlement son discours annuel à la nation, au moment où son parti est éclaboussé par des affaires de corruption à 3 mois des élections législatives. Cyril Ramaphosa, patron du Congrès national africain à l'ANC, dirige l'Afrique du Sud depuis la démission forcée en février 2018 de Jacob Zuma, emportée par de nombreux scandales. Le nouveau chef de l'État s'est donné comme mission de redresser l'image de l'ANC avant le scrutin, dans un contexte économique morose pour la première puissance industrielle du continent africain.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Réunion internationale ce jeudi à Montevideo, capitale de l'Uruguay, pour tenter de trouver une issue négociée à la crise au Venezuela. Y participent des représentants de l'UE, de 8 pays européens et de 5 d'Amérique latine. Sur place, le bras de fer entre le président Nicolas Maduro et le chef du Parlement Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim du Venezuela, se concentre désormais sur l'arrivée d'une aide humanitaire envoyé notamment par les États-Unis. Mercredi, Juan Guaido a exhorté l'armée à ne pas bloquer cette aide après la neutralisation d'un pont par des militaires à la frontière avec la Colombie, où est organisée une collecte de vivres et de médicaments.
Le président américain Donald Trump va déclarer officiellement la victoire sur le groupe terroriste État islamique et son prétendu califat la semaine prochaine. Personne ne pensait qu'on pouvait le faire rapidement, a dit hier M. Trump, devant de hauts responsables de la coalition internationale anti-djihadiste réunie à Washington. Pour leur part, les officiels de la défense et des services de renseignement américains pense que quelques 1500 combattants de l'organisation djihadiste s'accrochent toujours à une centaine de kilomètres carrés en Syrie, mais ils ont été plus prudents dans leur évaluation de la situation.
La Banque mondiale se cherche un nouveau président après la démission surprise de Kim Jong-un début janvier. Alors que le dépôt officiel des candidatures s'ouvre aujourd'hui, la Maison-Blanche a présenté hier son candidat Claire Morin-Gibourg.
David Malpass, sous-secrétaire au Trésor et chargé des affaires internationales depuis septembre 2017, a été désigné candidat officiel de la Maison-Blanche pour diriger la Banque mondiale. « C'est un grand honneur », a réagi M. Malpass. Ce membre loyal de l'administration Trump est un farouche critique de l'institution qu'il n'hésite pas à décrire comme inefficace et dépensière. Selon une règle tacite, le poste de président de la Banque mondiale revient à un candidat américain, alors que la direction du FMI revient à un Européen. La Banque mondiale lance officiellement les candidatures aujourd'hui jeudi. Les autres candidats représentant d'autres États membres n'ont pas été révélés. Parmi les noms régulièrement cités, l'ancienne ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, et l'ancienne ministre nigériane des Finances, Ngozi Okonjo-Iweala, déjà candidate en 2012. Les prétendants ont jusqu'au 14 mars pour déposer leur dossier. Et le nom du nouveau président sera annoncé d'ici la mi-avril.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanette Talani.
Le Rwanda vient de signer un contrat de 400 millions de dollars d'une durée de 7 ans pour produire du gaz en bouteille à partir du lac Kivu situé en RDC. Le projet de Gatmet Energy, propriété des États-Unis, des hommes d'affaires rwandais et nigérians, compte aspirer le gaz du fond du lac avant de le mettre en bouteille et de l'utiliser comme carburant. Cela devrait aider à prévenir les bulles de gaz toxiques à la surface. Le Rwanda compte déjà deux sociétés qui extraient du gaz du lac Kivu pour alimenter des centrales électriques. La société sud-africaine Bushveld Minerals, cotée à la Bourse de Londres, veut intégrer la Bourse de Johannesburg d'ici au troisième trimestre de cette année. La cotation ne vise pas à mobiliser des capitaux, mais à promouvoir les investissements en Afrique du Sud, où Bushveld Minerals possède des mines de vanadium, son activité principale. Cette société exploite aussi du charbon à Madagascar. Terminons avec le Maroc, où le taux de chômage a baissé à 9,8% en 2018, alors qu'il était à 10,2% en 2017. Ce pays a créé 112 000 emplois l'année dernière, dont 21 000 dans les zones rurales, contre 86 000 en 2017. Selon l'Agence marocaine de planification, les services constituent le premier secteur créateur d'emplois, avec 65 000 postes créés. La construction et la fabrication ont généré respectivement 15 000 et 13 000 emplois. L'agriculture et la pêche ont en crier 19 000.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Cannes des moins de 20 ans, le Mali s'est relancé hier contre le Burkina Faso.
Oui, le but de Mamadou Traoré pourrait coûter cher. À la 52e minute, le Mali a frappé et donné la victoire à son pays face au Burkina Faso 1-0 lors de la deuxième journée du groupe B. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial sur place à Maradi, Siaka Traoré, pour le point.
Le Sénégal enregistre 6 points. Premier de la poule B, il est donc qualifié pour les demi-finales. Le Ghana occupe la deuxième place avec 3 points, suivi du Mali 3 points également. Le Burkina Faso ferme la marche avec 0 point. Éliminé, le coach du Burkina Faso, Séraphin Dargani, met la défaite de son équipe au compte de l'apprentissage. Selon lui, son contrat n'a pas été rempli et c'est dommage, a-t-il indiqué.
En venant ici, la souffrance de mon peuple, quand je vois ces morts, quand je vois ce qui se passe au Burkina Faso, moi je venais, je voulais donner un bonbon, un petit sourire à ce peuple qui souffre.
Après sa victoire d'un but à 0 contre le Burkina Faso, le Mali, quant à lui, se relance dans la compétition. Mamoutou Kané Dimourlé, coach du Mali.
Oui, bravo, ça, il fallait faire ça et continuer à chercher les 5 matchs. C'est notre ambition.
La troisième et dernière journée samedi prochain s'annonce décisive pour le Mali et le Ghana. La rencontre se jouera sur les détails.
Avec une équipe ghanéenne, physiquement et morphologiquement, enfin prêt, on a nos forces. On va essayer de jouer avec nos forces et essayer de jouer avec leurs faiblesses pour qu'on puisse remporter ce match.
En attendant, le Sénégal veut garder le leadership de la poule B, selon son coach Youssouf Dabo. Siaka Traoré à la CAN U20, à Maradi, au Niger, pour VOA Afrique.
En Europe, le Barça et le Real dos à dos en demi-finale aller de la Coupe du Roi.
Oui, pas de vainqueur dans le premier classico du mois. Le FC Barcelone et le Real Madrid se sont neutralisés 1-1. Dans un match débridé au Camp Nou, le Real a pris l'avantage grâce à Lucas Vázquez, bien servi par Karim Benzema dès la 6e minute. Mais le Barça, quadruple tenant de la Coupe du Roi, a égalisé grâce au Brésilien Malcom à la 58e. La qualification se jouera donc lors de la seconde manche le 27 février au stade Santiago Bernabéu, où aura également lieu le troisième classico de cette passionnante série, le 2 mars en championnat d'Espagne.
West Ham enquête après des cris racistes contre Salah.
Oui, le club anglais a lancé des investigations après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant des cris racistes de ses supporters à l'encontre de l'attaquant égyptien de Liverpool pendant leur match de Premier League lundi à Londres. Dans une vidéo filmée par un supporter de West Ham avec son téléphone portable, on entend des insultes contre Mohamed Salah, ciblant notamment sa religion. Un des porte-parole de West Ham a réaffirmé sa politique de tolérance zéro contre n'importe quel comportement violent ou raciste. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Brooklyn et Denver 135 à 130, la Nouvelle-Orléans et Chicago 125 à 120, Milwaukee et Washington 148 à 129, Dallas et Charlotte 99 à 93, Utah et Phoenix 116 à 88.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. République démocratique du Congo, Martin Fayulu, le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre dernier, a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha. Monsieur Fayulu, qui conteste toujours les résultats confirmés par la Cour constitutionnelle congolaise, s'est autoproclamé président légitime et a appelé à la résistance pacifique. Eddie Isango a joint le porte-parole de sa coalition, la Muka, Fidel Babala.
Nous avons déposé effectivement une requête auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour réclamer la vérité des urnes. La question qui se pose, c'est une question fondamentale de principe. À quoi servent les élections si la population, le peuple qui est le souverain primaire, s'exprime dans un sens et que finalement on attribue le voix à quelqu'un d'autre? Je viens de suivre les premiers points de presse du nouveau président désigné et nommé par Joseph Kabila à l'issue de sa visite à Luanda. Il réclame qu'on lui apporte des preuves. D'abord, c'est une méconnaissance du système judiciaire, c'est pas à lui qu'on doit apporter des preuves. Et puis, c'est une façon de pouvoir renverser la charge de la preuve, que lui démontre qu'il a gagné les élections, qu'il ordonne la CENI de pouvoir publier les résultats bureau par bureau, province par province, comme ça on saura qui a gagné. Si cela n'est pas fait, je crois que c'est juste une communication qui est faite pour des personnes qui sont totalement analphabètes. La question, c'est de pouvoir faire respecter l'expression du vote populaire. Nous avons introduit une requête dans ce sens-là. Nous espérons, avec la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a déjà eu à examiner ce genre de situation, que cette jurisprudence sera constante et elle sera respectée.
Mais c'est vous qui avez saisi plutôt la Cour constitutionnelle, c'était à vous d'apporter des preuves.
Nous avons apporté des preuves, des sacs et des sacs de procès-verbaux, mais ces preuves n'ont jamais été examinées par la Cour constitutionnelle. Quand je parle du renversement des charges de la preuve, c'est par rapport à la communication du président nommé à Luanda, qu'il attendait qu'on lui amène la preuve de notre victoire aux dernières élections. Pour asseoir sa légitimité. La question n'est pas là, c'est à lui de pouvoir donner des instructions pour qu'on puisse finalement donner les résultats de la compilation. La compilation n'a jamais eu lieu. De quoi on parle là? Pour la Cour constitutionnelle et la RDC, nous savons ce qu'il en est. Ils ont refusé de dire les droits, c'était un déni des droits. Mais maintenant, nous avons saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
Est-ce que vous ne craignez pas que votre requête ne soit pas peut-être prise en considération si on tient en compte la déclaration du secrétaire général de l'ONU qui dit que ce qui s'est passé au Congo s'est passé et la situation est établie, il faut plutôt maintenant coopérer avec le nouveau président.
Là, vous êtes en train de me dire que ça sert à rien qu'il y ait une démocratie dans ces pays. Ça veut dire que ça sert à rien d'organiser les élections dans ces pays. Que tout le monde peut déclarer un arrangement entre deux individus. On déclare que la situation est telle, tout le monde doit se taire. Ça sert à quoi alors d'avoir une démocratie? Le même secrétaire général des Nations Unies les pour le Portugal.
Le nouveau président qui effectue déjà son premier voyage bénéficie déjà des soutiens de beaucoup de pays et d'institutions. Est-ce que vous pensez qu'ils vont revenir à l'arrière?
Le peuple congolais a exprimé un vote de manière tout à fait claire. Si les gens refusent de prendre en compte ce vote-là, je crois qu'il y a un déni de démocratie quelque part.
Fidel Babala, secrétaire général adjoint du Mouvement pour la libération du Congo et porte-parole de la coalition Lamuka. Le président Félix Tshisekedi, quant à lui, termine ce jeudi à Brazzaville sa première tournée à l'étranger après des visites en Angola et au Kenya. Les grandes artères de la capitale de la République du Congo sont pavoisées d'effigies du président Denis Sassou Nguesso et de son nouvel homologue de la RDC, nous dit notre correspondant sur place Arsène Séverin.
Pour les analystes politiques, cette visite est très significative vu les relations qu'entretiennent les deux pays depuis des temps. Constant et Barapéa, politologues, on identifie trois raisons.
D'abord, la RDC et le Congo partagent près de 2000 km de frontières. C'est un enjeu très important parce que tout ce qui se passe de ce côté-ci intéresse la RDC, c'est-à-dire Kinshasa. Deuxièmement, vous avez les réfugiés de la RDC qui sont ici à Brazzaville. Parmi autres, des militaires, des anciens, des ex-faces de Mobutu. Et le côté politique, c'est que le président Sassou Nguesso, depuis un moment, s'est investi comme médiateur dans cette mission. Il était en discussion avec le président Kabila et aussi Tshisekedi père, donc Tshisekedi lui-même. Au-delà de cet aspect, le président Sassou est le président en exercice de la CIRGEL. Donc, vous voyez que c'est un faisceau d'enjeux qui tournent autour de Brazzaville.
Brazzaville est une étape très importante pour cette première tournée du président Félix Tshisekedi. Alain Akwala, ancien ministre des zones économiques spéciales, on voit des opportunités économiques.
Nous craignons que ce scrutin puisse éventuellement se dérouler dans des conditions un peu heurtées, et ce n'est pas le cas. Donc son arrivée à Brazzaville est très importante parce que, vous savez, Denis Sassou Nguesso aussi est un homme d'expérience, donc ce serait tout bénéfice pour lui d'avoir un échange avec un homme comme celui-là. Le président a réussi à faire en sorte que le pont Route-Rail devienne le projet, j'allais dire, emblématique de l'intégration économique sous-régionale, non seulement de l'Afrique centrale, mais de deux capital qui en réalité constitue un marché fantastique. Et donc je pense que c'est un projet qui va certainement être un projet structurant. Les échanges informels entre Brazzaville, Yakalo, marché de Poto-Poto et Kinshasa, ce sont des centaines de millions de francs CFA par jour, mais c'est fait de manière informelle. Ce sont des niches demain qui pourraient devenir des projets d'intégration industrielle entre nos deux pays.
Des milliers de ressortissants de RDC se sont installés à Brazzaville depuis des années pour des raisons diverses. Nombreux se considèrent comme réfugiés politiques. Jean-Pierre Chimanga Mameta, membre de l'UDPS à la Fédération de Brazzaville, attend avec joie l'arrivée de son président.
Un accueil chaleureux, je vous dis que tout le monde est prêt pour aller
l'accueillir.
Tout le monde voudrait le voir, tout le monde voudrait le toucher parce qu'il y a des gens, des choses qu'on ne peut pas dire à haute voix, mais nous vous disons qu'il est porté par tout le monde. Il est le président de tous les Congolais.
Brazzaville et Kinshasa, les deux capitales les plus rapprochées au monde, sont condamnées à coopérer, quelles que soient les humeurs des acteurs politiques. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Suite de notre série sur les candidats à la présidentielle du 24 février au Sénégal, ce matin, Ousmane Sonko, une étoile montante de la scène politique sénégalaise, candidat anti-système, Ousmane Sonko se présente à la présidentielle en révolutionnaire. Très critique envers le pouvoir, il n'hésite jamais à partager son point de vue en public. C'est d'ailleurs ce qui est à l'origine de sa radiation de la fonction publique. Aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, il veut être le plus jeune à accéder à la magistrature suprême. Son portrait avec Seydina Abagay, notre correspondant à Dakar.
Ousmane Sonko est né le 15 juillet 1974 à Thiès de parents fonctionnaires. Il grandit principalement en Casamance, puis effectue ses études supérieures à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où il obtient une maîtrise en droit public en 1999. La même année, il est major de sa promotion au concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration du Sénégal. En 2001, Ousmane Sonko sort diplômé de l'ENA, section emploi et domaine, et intègre l'administration publique sénégalaise. Son premier poste le conduit au centre des services fiscaux de Pikine, dans la banlieue de Dakaroise. Après 3 ans dans l'administration, il participe à la création du syndicat autonome des agents des impôts et domaines, dont il est le premier secrétaire général d'avril 2005 à juin 2012, avant d'en devenir le secrétaire général honoraire de juin 2012 à août 2016. À cette période, il commence à critiquer le gouvernement et accuse l'État d'anomalie fiscale et budgétaire en mettant en cause le président Macky Sall.
On a une assemblée nationale qui ne l'est que de nom, où on a une majorité des députés qui ne comprennent absolument rien aux enjeux. Beaucoup d'entre eux n'en ont même pas les compétences ou la formation, qui sont téléguidés ou télécommandés à partir du palais de la République.
Suite à cela, il est radié de la fonction publique par le président Macky Sall pour manquement grave au droit de réserve. Cet épisode, largement relayé par la presse sénégalaise, a permis de révéler Ousmane Sonko au grand public. Président du parti politique PASTEF, créé en janvier 2014, soit 2 ans avant sa radiation, il est élu député aux législatives de 2017. En janvier 2018, il sort le livre « Pétrole et gaz au Sénégal », chronique d'une spoliation où il accuse le président Macky Sall et son entourage de malversations dans la gestion des ressources naturelles du pays.
Un président a été élu sur la base d'un certain nombre de slogans liés à la rupture, à la bonne gouvernance, au retour de l'état de droit, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on voit qu'il fait exactement le contraire de ce qu'il avait promis aux Sénégalais.
Le 6 septembre 2018, il déclare sa candidature à l'élection présidentielle de 2019. Le même jour, il publie un livre-programme dénommé « Solutions ». Dans cet ouvrage, il fait un diagnostic des problèmes sociaux et économiques du Sénégal et décline ses propositions pour y remédier. La montée en puissance du leader du PASTEF s'est internationalisée avec sa tournée dans la diaspora. Les Sénégalais répondent présents en investissant massivement les salles. C'est d'ailleurs cette diaspora et la jeunesse qui constituent sa principale force, si l'on se fie à l'observateur politique Ibrahim Bahou.
Asman a le profil jeune, il a le profil technique des jeunes, il a le discours des jeunes, il sait leur parler, il sait donc galvaniser des foules. De ce point de vue-là, ça lui a donné effectivement ce que les jeunes appellent maintenant le buzz, ça lui a donné une certaine popularité, j'allais même dire, au-delà de des espérances de beaucoup de ses supporters. Il est présent au Sénégal, il est présent dans la diaspora.
Charismatique, Ousmane Sonko compte principalement sur son entente avec la jeunesse pour maximiser ses chances d'être le président le plus jeune du Sénégal au soir du 24 février 2019. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Nigeria, la présidentielle, c'est dans moins de 10 jours, et le principal parti d'opposition, le PDP, accuse la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, et le parti au pouvoir d'organiser d'ores et déjà une fraude électorale. Des soupçons partagés par certains membres de la société civile, selon notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Le principal parti d'opposition, le PDP de l'ancien vice-président Atiku Abubakar, accuse la CENI, le parti au pouvoir, l'APC, de préparer des fraudes massives pour remporter les élections générales du 16 février. Selon le porte-parole de l'opposition, les agents électoraux recrutés par la CENI sont tous des loyalistes du parti au pouvoir, dont la mission est de falsifier les résultats des élections. Kola Ologbodouyan.
Le PDP avertit les Nigérians que la CENI est en train de recevoir des instructions de la présidence Buhari et du parti au pouvoir APC pour manipuler notre processus électoral à divers niveaux. Pour atteindre cet objectif, la CENI a reçu une liste de personnes devant servir comme agents électoraux, y compris de personnel ad hoc et sélectionnés par les candidats du parti APC dans toute la fédération.
Certaines organisations de la société civile ont aussi exprimé leurs doutes à propos de la CENI de pouvoir organiser des élections libres, crédibles et transparentes. Emmanuel Mwobiko est un activiste des droits humains.
Il y a une année, notre ONG avait appelé à un changement complet de leadership à la tête de la Commission électorale nationale indépendante parce que nous ne croyons pas que la CENI, sous son président Mahmoud Yakubu, puisse organiser des élections libres, transparentes, paisibles et acceptables. Mais malheureusement, vous avez un gouvernement en place qui a toujours eu des problèmes avec l'Assemblée nationale, la seule institution capable d'effectuer un changement.
Des accusations qui rejettent la Commission électorale nationale indépendante. Aliou Bello, le directeur adjoint de la communication de la CENI, explique que le choix et l'identification des agents électoraux s'est fait d'une manière transparente.
Je voudrais dire, et cela est sûr et certain, que la procédure d'identification, de recrutement et de formation du personnel ad hoc se fait de manière transparente. La réalité est que notre commission est déterminée à offrir aux Nigériens des élections libres, transparentes, crédibles et acceptables.
Transparent, credible and above all, acceptable elections.
L'opposition accuse régulièrement le pouvoir de préparer une fraude pour permettre la réélection du président sortant. Et la récente nomination de la nièce du président Mohamedou Buhari à la tête de l'unité de compilation et qui révélera des résultats des élections de février prochain aura été un autre point d'accusation entre le PDP, la commission électorale et la présidence de la République. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, coup de projecteur sur le discours sur l'état de l'Union prononcé mardi par le président américain Donald Trump. Face au Congrès réuni au grand complet, le locataire de la Maison-Blanche a appelé républicains et démocrates à l'union et au compromis sans reculer sur son projet de mur. Que retenir de son discours? La réplique démocrate était-elle à la hauteur? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos. Et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.